A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Et bonjour à tous, bienvenue pour le 8e et dernier débrief de la draft 2024. Évidemment, la semaine prochaine, on commencera la draft 2025. Jean-Michel a déjà prévu de regarder en rediffusion tous les matchs de Texas El Paso. Aujourd'hui, on va parler d'AFC Nord. Et Jean-Michel, du coup, est avec moi. Bonjour à toi.
Et bonjour Victor et bonjour tout le monde.
Évidemment, si vous vous demandez pourquoi je parle de Texas El Paso, vous irez voir la dernière pastille que nous avons diffusée hier qui concernait la NFC Sud. Jean-Michel, on a la chance d'aller dans cette AFC Nord, division historique, division avec des équipes qui vont bien, on l'a vu l'année dernière, que ce soit Ravens, Browns, Bengals, malgré les blessures, ou Steelers, on n'a pas de mauvaise équipe dans cette division, et du coup forcément bien drafté est une clé pour se différencier des autres. On va commencer, si tu le veux bien, avec les Baltimore Ravens. Au 30e choix, Baltimore a choisi Nate Wiggins, le petit mais talentueux cornerback de Clemson. Au 2e tour, Roger Rosengarten, le tackle de Washington. Au 3e tour, Adisa Isaac, le edge rusher de Penn State. Au 4e tour, Devontae Walker, le wide receiver de North Carolina. Toujours au 4e tour, TJ Tampa, le cornerback de Iowa State. Au 5e tour, Rashid Nadi, le running back de Marshall. Au 6e tour, Devin Leary, le quarterback de Kentucky. Et au 7e tour, Nick Samak, le centre de Michigan State. Et Sanusi Kane, ou Kane, je ne sais pas, je dois l'avouer, safety de Purdue. Jean-Michel, écoute, comme tous les ans, malgré des choix forcément pas premium, hein, puisque Baltimore est quand même bon quasiment tous les ans, ben on a eu, enfin, en tout cas pour moi, hein, tu vas peut-être me contredire, mais pléthore de choix intelligents.
Oui, on n'a que des joueurs qui ont contribué au plus haut niveau universitaire, donc déjà, alors c'est pas un gage, ok, c'est pas un gage. Des fois, des joueurs ont été fantastiques en NCAA, et puis en NFL ça marche pas, et des fois c'est l'inverse, des joueurs qu'on a peu vus et qui finalement explosent. Mais bon, quand même, c'est rassurant en tout cas. Voilà, c'est rassurant. Et puis en plus, ils ont adressé des besoins. Cornerback, c'était un besoin. Tackle offensif, c'était un besoin. Rajouter un edge, c'était un besoin. Rajouter un receveur, c'était un besoin. Et finalement, ils adressent tous leurs besoins et avec plutôt des bons joueurs. Donc déjà, oui, de premier abord comme ça, ça paraît bien.
Oui, je dois avouer que, bon, Nate Wiggins, on peut avoir des réserves et c'est pas pour rien qu'il tombe en 30. Parce que je comprends bien qu'à part Rogers Cromarty, les petits cornerbacks réussissent pas toujours. Mais ça reste un choix maîtrisé. Rosengarten, j'adore en fin de second tour. Je trouve la valeur dingue. TJ Tampa au 4e tour, je trouve la valeur dingue. Rashid Nadi, qui est un de mes chouchous au poste de running back, qui a eu une carrière universitaire qui s'est un peu arrêtée net suite à des problèmes un peu de santé mentale, hein, si je me rappelle bien. Enfin, en tout cas, voilà, il est de retour et il peut être performant. Moi, je trouve que c'est pas une... Baltimore, ces dernières années, draft très bien. On se souvient par exemple de la draft Kyle Hamilton et Tyler Linderbaum, hein, deux postes qui soi-disant sont sous-cotés, mais enfin aujourd'hui ils ont deux joueurs de niveau pro bowler, je pense qu'ils ne sont pas mécontents. Mais voilà, Baltimore c'est souvent intelligent et ça l'a été là. Du coup au niveau de la note, Jean-Michel, on part sur...
Oh, je pense que je vais être assez haut, tu vois. Après le seul truc qui me... Alors ça ne me dérange pas, mais... Tu vois, c'est le choix du tackle. Ils avaient vraiment un besoin en tant que tackle droit. Et Rosengarten, alors oui, jouait tackle droit avec l'université de Washington, mais parce qu'il y avait un quarterback gaucher. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un tackle qui est plus dans la fluidité de mouvement, etc., que dans la puissance. Or, tu as là une équipe avec Lamar Jackson et Derrick Henry. Donc, je m'attendais peut-être à un tackle un peu plus puissant. Alors, certes, à 62, il n'y avait pas forcément les candidats qu'il faut, mais voilà, je ne sais pas, faire un petit move, remonter un petit peu pour essayer d'attraper un tackle un peu plus puissant, j'aurais préféré. Mais sinon, quand même, voilà, c'est pour chipoter. Moi, ça me plaît beaucoup. Je vais te laisser décider. Je suis entre encouragement et compliment, mais voilà, je suis entre ces deux zones.
Et ben, moi, je vais aller sur les compliments parce que je trouve que... C'est littéralement ces dernières années, avec les Rams et les Eagles, c'est les équipes qui draftent le mieux. Alors les Rams, ça se voit moins parce que souvent c'est des 3e, 4e, 5e tours, mais qui bizarrement ont toujours un impact en effet. Mais voilà, je trouve qu'ils continuent à être une franchise extrêmement bien gérée. On arrive aux Cincinnati Bengals. Les Cincinnati Bengals au premier tour qui prennent Amarius Mims, tackle de Georgia. Au deuxième tour, Chris Jenkins, le fils de défensif tackle de Michigan. Au troisième tour, Jermaine Burton, le receveur d'Alabama. Troisième tour toujours, McKinley Jackson, défensif tackle de Texas A&M. Quatrième tour, Eric Hall Jr., le tight end de Iowa. Cinquième tour, Josh Newton, le cornerback de TCU. Sixième tour, Tanner McLachlan, le tight end d'Arizona. Cedric Johnson, le edge de Ole Miss. Et enfin, au septième tour, Dijan Anthony, le safety de Ole Miss. Et Matt Lee, le centre de Miami. Miami, Florida, évidemment. Jean-Michel, là... Alors, je reviendrai après sur mon avis personnel, mais on est sur une draft où il y a des risques qui ont été pris, là, pour le coup. Pour le meilleur ou le pire, mais aujourd'hui, les Bengals sont censés jouer le titre tout de suite. Là, il y a des choix qui font plus penser à un investissement long terme. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu penses que je suis trop dur ?
Non, je comprends ce que tu veux dire. Et à mon avis, tu parles surtout du premier choix, Amarius Mims, qui voilà un potentiel incroyable, mais qui n'a eu que 8 titularisations à Georgia. Donc forcément, oui, c'est un risque. Tu peux pas te dire, oui, je suis sûr de ce joueur. Voilà, il a telle qualité, telle qualité. On a vu quand même un peu des bribes et tout, mais c'est un pari sur le potentiel. Après, ils ont a priori déjà leur tackle. Voilà, ils ont les deux brands. Voilà, Rolando à gauche et puis Trent à droite. Donc, a priori, c'est pas comme s'il leur fallait absolument un tackle titulaire dès cette année. Voilà, parce que vraiment, il y a un gros trou. A priori, ils ont déjà leur titulaire. Donc, pourquoi pas miser sur le futur ? Je veux dire, Mims, cette année, peut déjà rentrer sur certains jeux en swing tackle. Et puis, surtout, tu le développes pour l'avenir. Et puis, vu son gabarit, sa masse et tout, tu te dis ben, que forcément, il va prendre modèle sur Trent Brand. Donc, je trouve que c'est intelligent, finalement. Est-ce que ce choix-là, le premier tour, renforce l'équipe pour 2024? Ouais, je suis pas certain, d'accord. Mais bon, la draft, c'est pas que maintenant, même si les Bengals sont prêts, etc. Mais tu peux quand même te permettre un choix comme ça qui va un peu pour le futur. Mais après, tout le reste, ça adresse le présent. Moi, j'aime beaucoup. Il y avait aussi un gros besoin au poste de defensive tackle. Et du coup, ils en prennent deux. Et en plus, deux complémentaires. Déjà, ils prennent la bonne affaire, Chris Jenkins. Voilà, superbe, superbe. Voilà. Les Jaguars, ils ont pris Mason Smith juste avant. Ils ont dû te dire, les Bengals, mais c'est incroyable. Ils nous laissent Jenkins. Ah ben, on y va, alors on le prend. Parce que lui, il est prêt à contribuer dès maintenant. Mais leur plus gros besoin en defensive tackle, c'était plutôt de prendre un defensive tackle vraiment imposant, un run stopper, parce qu'ils ont perdu du J-Reader, etc. Et puis, s'il y a une division où ça court beaucoup, que ce soit les Ravens, que ce soit les Steelers, que ce soit les Browns, ça court beaucoup. Et ben, du coup, ben, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont retournés sur la position avec McLean Jackson. Du coup, moi, ça me plaît beaucoup. Même le receveur, Jermaine Burton, c'est très très bien. Cornerback, c'était pas un besoin prégnant. Mais tu tentes un pari avec Josh Newton. Au cinquième tour, tu risques quoi ? Choix 149. On l'a bien vu, Newton avec TCU. Il a vraiment tous les attributs qu'il faut. Il a la taille, il a la longueur de bras. Il a vraiment des instincts, des attributs. Mais il a été gêné par des blessures. Et puis, il a pas montré tout son potentiel. Mais au cinquième tour, rajoute un peu de profondeur. Et puis, tu vas voir ce que ça donne. Ah, moi, non, je trouve que, ok, c'est un pari le premier choix. Mais après, franchement, c'est très très solide.
Oui, bah, c'est vrai que Mims, moi j'ai toujours un peu de mal en fait avec ces phénomènes athlétiques dont vous allez voir ce que vous allez voir. Ça donne des Van Neel, des Alex Heatherwood, des choses comme ça qui finalement se développent jamais. Alors, il y a un moment, chaque joueur est différent, Mais c'est vrai que je dis pas qu'il deviendra bon ou mauvais, je dis juste que ça reste un énorme pari. C'est un peu Gigi McCarthy des tackles. Sauf qu'il n'a pas joué autant que Gigi McCarthy. Pour le coup, après, je suis d'accord avec toi, le poste défensif tackle, il devait être adressé principalement dans la défense contre la course, qui a été une vraie faiblesse structurée des Bengals l'année dernière. J'aime bien qu'ils adressent ce besoin. Chris Jenkins, on lui souhaite d'avoir la carrière de son papa. Jermaine Burton, point d'interrogation, j'aime pas être ce mec-là, mais Jeremiah qui dit dans le round de NFL que ça fait des années qu'il n'a pas vu un joueur autant rayer des boards pour son comportement en dehors du terrain. Bon, ça me rend circonspect. J'espère que ça sera pas une catastrophe ou quoi. On verra bien. En tout cas, sur le talent du bonhomme, il est talentueux. Il y a pas de problème. Il vaut un troisième tour. On verra ça. Globalement, je suis pas en opposition avec toi. Mais par contre, ça sera plutôt des encouragements. Je ne vais pas m'enflammer comme j'ai pu m'enflammer pour Baltimore ou pour la NFC Sud.
Oui, non, mais je suis d'accord, c'est des encouragements. Voilà, moi j'aime bien leur draft, je trouve qu'ils ont adressé des besoins, ils tentent un pari, etc. Mais après, oui, non, c'est pas non plus d'encouragements, c'est de bons encouragements.
De bons encouragements pour Cincinnati, et on ne va pas très loin géographiquement, puisque de Cincinnati, on va à Cleveland. Même pour les Américains, ça se fait en voiture, c'est dire. Tout se fait en voiture pour eux, tu vas me dire, mais c'est à côté en tout cas. On va à Cleveland pour les Browns. Les Browns qui ont un effectif ultra complet, mais pas de quarterback, hein, puisque celui dont on ne doit pas prononcer le nom n'a rien fait depuis 2 ans. Et du coup, ils n'ont pas de premier tour. Ils ont commencé au second tour avec Mike Hall Jr., le defensive tackle de Ohio State. Troisième tour, Zach Zinter, le garde de Michigan. Cinquième tour, Jamari Trash, le receveur de Louisville. Sixième tour, Nathaniel Watson, le linebacker de Mississippi State. Et au septième tour, Miles Harden, cornerback South Dakota. Et Jowan Briggs, defensive tackle Cincinnati. Jean-Michel, c'est toujours difficile d'évaluer les drafts un peu comme les Saints, même si les Saints, on avait un premier tour pour s'enjailler. Mais ces équipes qui ont très peu de choix. Et là, en plus, pas de choix au premier tour, c'est toujours un peu difficile on va dire, vraiment de s'exciter là-dessus. Est-ce que tu penses qu'ils ont fait le meilleur avec les choix à disposition ?
Oui, après le meilleur, on peut toujours faire d'autres choix, évidemment. Mais moi, ça me paraît plutôt bien. Parce que, comme tu dis, ils ont raté les 50 meilleurs joueurs. Voilà, leur premier choix, c'est à 54. Et à 54, ils font quoi ? Ils adressent un besoin. C'était un besoin, le poste de defensive tackle. Elliott est parti. En plus, il n'était pas. Voilà. Il y avait un besoin aux côtés de Tomlinson. Donc, c'est très bien d'avoir pris Michael Hall. Il a été meilleur en 2022 qu'en 2023, mais c'est un bon joueur. Il l'a encore vu lors du process. Donc, moi, je trouve que c'est un bon choix. Ensuite, je ne suis pas objectif. Ils prennent mon chouchou depuis 2 ans, Zach Zinter, le garde de Michigan, que j'adore. Voilà, c'est un guard. C'est pas le plus mobile du monde. Mais alors, par contre, quelle puissance. Vraiment, le guard offensif qui va au mastic, qui t'aplatit le linebacker, qui veut s'interposer. Non, vas-y, dégage. Vraiment, moi, j'adore ce joueur. Et pour une équipe qui joue vraiment physique, avec un jeu de course physique, Zach Zinter, il est juste parfait. Je veux bien, sur leur ligne offensive, ils ont peut-être déjà leurs 5 titulaires, mais rajoute Zach Zinter, que ce soit pour cette année, si tu as des blessures, s'il faut de la rotation, et puis pour le futur, c'est vraiment un super joueur qui a été un petit peu, voilà, c'est dommage sa blessure en fin de saison. Et puis au 6e tour, ils prennent un joueur que j'aimais beaucoup aussi, que j'ai vraiment, moi j'aurais aimé le prendre dans ces derniers tours comme ça aux Raiders, vraiment ça m'aurait fait plaisir, c'est Nathaniel Watson, parce que je trouve qu'il a vraiment le gabarit qu'il faut pour la NFL, il a vraiment la polyvalence qu'il faut pour la NFL, il peut défendre la course, il peut attaquer la poche, il peut aller en blitz, il peut... Donc déjà ils ont fait ces 3 choix-là que moi je trouve très bien, donc du coup ça me plaît. Après, si vraiment tu regardes l'ensemble de la draft et tout, bon ok, c'est pas non plus très spectaculaire, c'est pas hyper flashy machin. Donc ouais, comme tu dis, je pense qu'ils ont fait au mieux avec ce qu'ils pouvaient faire.
Oui, je suis d'accord. Zach Zinter, le problème de Zach Zinter, c'est qu'il s'est cassé tibia péroné, enfin tibia fibula à la fin de la saison. Hein. C'est la seule chose qui joue contre lui, parce que tu l'as dit, après le talent il est énorme, hein, il n'y a pas de problème. Globalement, je suis un peu comme toi. C'est-à-dire Michael Hall, bon, je ne suis pas le plus grand fan. Il coche peut-être pas toutes les cases physiques, mais il a quand même du talent. Il était expérimenté. Il était titulaire dans une grande université. tu mets un deuxième tour sur lui, je tombe pas des nues. Zach Zinter t'en a parlé, même pour le coup de Jamari Trash, je trouve que cinquième tour, franchement, c'est pas tout mauvais. Donc, c'est vrai que c'est une draft qui, sur le papier, fait pas forcément rêver parce qu'il y avait peu de choix. Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu, sans faire, pour moi, de grosses erreurs. J'ai dit, ils ont un des effectifs les plus talentueux de la ligue, donc autant renforcer la profondeur à certains postes qu'ils nécessitent. Donc pour moi, typiquement, c'est des encouragements. Voilà. Je ne peux pas aller plus haut parce que pas de premium, mais je ne vais pas plus bas parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Tu es sur la même longueur d'onde, Jean-Michel ?
Exactement. Exactement. Encouragement, ça me paraît tout à fait bien. Ouais.
Très bien. Nous allons donc passer aux hommes d'acier. Les Pittsburgh Steelers, qui au premier tour ont pris Troy Fautanou, le tackle de Washington. Au deuxième tour, Zach Frazier, le centre de West Virginia. Au troisième tour, Roman Wilson, le wide receiver de Michigan. Au troisième tour, toujours Peyton Wilson, le linebacker de NC State. Au quatrième tour, Mason McCormick, le garde de South Dakota State. Sixième tour, Logan Lee, defensive tackle de Iowa. Et Ryan Watts, cornerback de Texas. Écoute, Jean-Michel, quand on regarde cette draft, il y a une chose qui est sûre. C'est qu'ils avaient coché ligne offensive dans les besoins. Hein, je pense qu'ils ont tout fait pour y répondre, en tout cas.
Mais c'est ça. Dans toutes les mocks qu'on a pu faire toute l'année, au premier tour, on mettait aux Steelers soit un tackle offensif, soit un centre. Bah, du coup, ils ont pris les deux. Enfin, un au premier tour, Fautanou. Et ensuite, avec leur deuxième choix, au second tour, ils ont pris le centre. Parce que oui, c'était vraiment des besoins. Et là, du coup, ben, regarde leur ligne offensive il y a ne serait-ce que 2 ans. Et maintenant, ben, leur ligne offensive, eh ben, tu as du Broderick Jones, du Troy Fautanou, du Zach Frazier. Ben, ça a quand même une autre gueule maintenant. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Donc ça, c'est très, très bien. Et puis, le reste de leur draft, moi, je la trouve vraiment super. Parce que tu vois, si on reste sur la ligne offensive, au quatrième tour, Mason McCormick, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Je veux bien qu'il vienne du second niveau universitaire. Mais bon, quand même, il a été champion du second niveau universitaire avec une université qui couvrait beaucoup. Notamment, on l'a vu avec Isaiah Davis qui a été drafté par les Jets. Mais lui, il est pour beaucoup, Mason McCormick, dans ce jeu de course. Et puis, c'est un garde très athlétique qui va t'ajouter de la profondeur. Et j'en doute pas, il s'imposera comme un titulaire. Et puis après, ils ont fait encore d'autres bons choix. Moi, le seul truc à la limite qui me manque, c'est qu'ils n'aient pas pris le receveur Johnny Wilson. Parce que à l'intersaison, ils ont fait venir Russell Wilson. Puis après, ils draftent Roman Wilson. Et puis, ils draftent Peyton Wilson. Eh ben, il fallait ajouter encore un Wilson. Non, voilà. C'est juste le truc qui me manque. Parce que sinon, elle est vraiment magnifique, leur draft.
Oui, oui, oui. Je vais pas répéter. J'ai tout pareil sur la ligne offensive. Même McCormick, je pense qu'il peut devenir un titulaire. Enfin, j'aime beaucoup les trois choix. Je trouve, comme tu dis, alors bien sûr, c'est une ligne offensive qui manque d'expérience en NFL, donc il va peut-être encore avoir du raffinement à faire pendant 1 an, 2 ans. Mais là, globalement, tu as un socle ultra solide pour l'avenir. Bon, Peyton Wilson, j'adore linebacker. Il a 62 ans, hein, mais à part ça, j'adore. Mais bon, c'est juste que ultra talentueux, tout en blessé. On a appris après la draft qu'il n'avait plus de ligament à un des deux genoux. Un truc comme ça, bon, enfin, en tout cas, de ligament, le MCL, je crois. Je dis peut-être une bêtise, vous me corrigerez, mais bon, c'est le seul choix où je me suis dit, bon, c'est typiquement le joueur, j'adore, mais je suis pas sûr qu'il mette beaucoup de pieds en NFL. À part ça, tout le reste me paraît ultra cohérent. Roman Wilson, j'aime beaucoup. Même Ryan Watts, cornerback de Texas au 6e tour, j'étais là, ah, pourquoi pas. Non, vraiment, je trouve que c'est une draft Steelers, c'est une draft propre. Ils sont pas allés sur du flashy, mais ils sont allés sur de l'efficace. Donc là, moi, je suis sur des compliments.
Bah écoute, c'est la dernière pastille des briefs drafts qu'on fait. Puis moi, j'aime beaucoup leur draft. Donc je vais faire mon premier félicitation. Et voilà, je les félicite.
Eh bien voilà, félicitations pour finir. Alors là, c'est ce qu'on appelle vraiment finir en fanfare. Hein. Évidemment, avec les Pittsburgh Steelers, je suis sûr que leur fanbase sera très contente de ton enthousiasme et du mien aussi, hein, puisque compliment, ça reste la deuxième meilleure note, ça reste excellent. On a donc fini avec ces revues. On vous abandonnera pas, on vous donnera un peu de détails quant aux prochains événements. Je pense que sûrement, comme l'année dernière, on arrivera à organiser une petite mock live 2025, oui, c'est ça, d'ici le mois de juin. Parce que c'est toujours rigolo de faire. J'ai d'ailleurs un article qui va sortir qui d'ailleurs, je crois, est sorti, puisqu'on a, on a quelques jours d'avance dans l'enregistrement, sur le débrief de notre mock live de l'année dernière. Jean-Michel, on n'était pas mauvais du tout.
Ah.
Autant, y en a une il y a 2-3 ans où tu sais, on a Rater contre Howell en 1 et 2, bon, qui avait un peu mal vieilli. Autant celle-là, honnêtement, il y a deux accidents industriels, que sont Callen King et Leonard Taylor. Mais à part ça, globalement, c'était plutôt pas mal du tout. Donc voilà, on vous tiendra au courant. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Touchdown Actu. Et vous aurez toute actualité. Merci Jean-Michel.
Merci Victor. Et puis bonne trêve tout le monde. Je sais c'est douloureux là. On ne sait pas trop quoi faire de nos vies. Mais allez, ouais, c'est bientôt. On va y arriver tous ensemble. Et puis bientôt, ça va reprendre les camps. Et on sera là avec vous.
Ouais, vous allez être obligés de sortir parce qu'il va faire beau. Sortir vos enfants, sortir vos animaux, aller faire des activités, c'est terrible. C'est terrible, vraiment, c'est vivement que l'automne, l'hiver et les 12 degrés reviennent, ce serait dommage d'en profiter. Merci à tous et bonne journée. Salut, salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.